Je me permets de poser cette question. Si quelqu'un observait votre vie pendant une semaine, arriverait-il à la conclusion que vous admirez Jésus ou que vous le suivez? Y a une différence entre admirer Jésus et le suivre. Roger Federer a pris sa retraite depuis quelques années maintenant, mais comme beaucoup d'entre nous, j'ai souvent suivi ses matchs et les résultats. J'admirais aussi son élégance, sa façon de jouer, mais je n'ai jamais appris à jouer au tennis. On peut admirer un musicien. Comme Eric, on a entendu aujourd'hui que sa musicienne préférée, c'est Thérèse. Mais lui-même, il l'admire, mais ne joue pas. On peut admirer un chef sans cuisiner. On peut admirer Jésus sans le suivre vraiment. Et dans le texte que nous allons lire, il y a des paroles qui sont vraiment très, très fortes. Et je dois me dire, mais j'en parle, mais je suis en route, je ne suis pas encore arrivé. On est dans notre série Devenir semblable à Jésus. On a déjà vu plusieurs étapes. Notre désir, c'est de devenir un peu plus comme lui. Et maintenant, on est arrivé à la cinquième étape, suivre malgré soi. Je lis le texte, c'est dans Marc, chapitre 8, les versets 34 et 35. Il y a seulement deux versets qu'on va lire en entier. Marc 8, 34-35. Puis Jésus appela la foule avec ses disciples et il leur dit, si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. En effet, celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. Quelles sont les trois actions que Jésus demande dans ce texte? Se charger de sa croix, c'en est une. Voilà. Arrêter de penser à soi-même, qu'il renonce à lui-même et qu'il me suive. Renonce à lui-même, se charge de sa croix et me suive. Ces paroles sont peut-être parmi les plus exigeantes de l'Évangile. On les connaît, mais je dois dire que quand je me suis arrêté sur ces deux versets, ça m'a profondément touché. Je me suis dit, mais où est-ce que j'en suis concrètement dans mon quotidien aujourd'hui? Juste le contexte, Jésus vient d'annoncer que il va mourir. Il sera crucifié, condamné, rejeté. Et puis, tout de suite, Pierre s'approche de lui, puis lui dit, non, mais Jésus, t'entends ce que tu dis? Mais c'est pas possible! Tu es le Messie! Toi, tu es victorieux, tu vas régner! Et Jésus, là, a des paroles très fortes. Arrière de moi, Satan. Parce que le plan de Dieu est un autre. Et ce qui ne correspond pas au plan de Dieu, mais ça vient de l'ennemi. Et juste après, Jésus appelle non seulement ses disciples, mais aussi les autres personnes, et il leur dit, si quelqu'un veut être mon disciple. Il commence par ce si. Jésus ne nous oblige pas. C'est une proposition qu'il fait. Est-ce que vous voulez être mes disciples? Un disciple, c'est quoi? C'est un apprenti, un apprenant. Il y a un maître qui connaît le boulot, et puis l'apprenti, il vit avec lui, et il essaye d'apprendre, d'imiter. Est-ce que vous voulez m'imiter? Est-ce que vous voulez apprendre de moi? Est-ce que vous voulez être mes disciples? Si quelqu'un veut être mon disciple, et alors qu'il renonce à lui-même. Renoncer à soi-même, en fait, c'est céder sa place. Je ne sais pas si vous voyez sur l'image, il y a des clés qui changent de main. Et je donne les clés de ma voiture à quelqu'un d'autre. Je donne les clés de ma voiture pas à n'importe qui. Attends, t'as le permis? Tu sais comment fonctionne une voiture de ce type-là? Et renoncer à soi-même? Attends, Jésus. Oh, ouais, je te donne les clés de ma vie, mais tu sais conduire? Il peut y avoir une hésitation. Est-ce que vraiment renoncer à moi-même, c'est pas un peu risqué? Est-ce que ce n'est pas un peu dangereux? Renoncer à soi-même, c'est accepter de ne plus être nous au centre de notre vie. On aime bien être aux commandes. Et peut-être avoir Jésus un peu comme un, comment est-ce qu'il faut dire, un booster, un plus, hein, qui nous permet d'aller un peu plus vite. Et non, c'est pas ça. Lui, il veut carrément conduire lui-même. Il dit, non, mais attends, tu pourras aller un peu plus vite, ou tu pourras aller plus lentement, ou un petit peu comme moi quand je suis dans la voiture et que Barbara conduit. Hein. Et est-ce que je fais aussi comme ça avec Jésus? Il y a des choses qui me plaisent pas, mais pourquoi tu vas pas un peu plus vite ici? Et pourquoi tu prends cette route qui se court autant? Jésus, non seulement il nous dit de faire ça, de renoncer à nous-mêmes, mais il nous a laissé un exemple. Et ça, c'est très fort. Jésus lui-même, Gethsémané, dans le jardin de Gethsémané, il a renoncé à soi. En Matthieu 26, il dit, Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, cette souffrance, ce rejet de la part des hommes, cette condamnation, cette crucifixion, si seulement ça pouvait s'éloigner de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Jésus renonce à lui-même. C'est pas parce qu'il n'a pas une propre volonté, mais il choisit de suivre le plan de son Père. Renoncer à soi-même, ce n'est pas ne pas avoir de volonté, mais peut-être qu'il faut une volonté forte pour pouvoir dire non, pas moi. Je renonce. Que ta volonté soit faite. Seigneur, je préfère ce que toi tu désires. Renoncer à soi-même, eh bien Jésus, il l'a fait dans le jardin de Gethsémané. Est-ce qu'il y a un domaine dans ma vie où je résiste à Dieu? Peut-être des projets, quelque chose concernant l'argent, ou mes relations, ou le pardon. Barbara, dans sa prière, a cité une personne qui sait qu'elle devrait pardonner, mais qui a de la peine à faire ce pas. C'est pas facile. Renoncer à ça. Et en fait, c'est l'autre qui devrait demander pardon. C'est l'autre qui devrait faire un pas. Et renoncer à soi-même, renoncer à mon avenir, céder la place à Jésus. La deuxième chose que Jésus nous demande, porter notre croix, porter sa croix, accepter le prix d'être un disciple. Sur l'image, on voit un chemin rocailleux, et ça monte, et puis le grimpeur a un sac sur le dos, un poids. Ça me fait juste envie d'aller là-haut. Dernièrement, on a fait la Combe Grède. J'espère que vous connaissez, autrement il faut la découvrir, c'est magnifique. Mais là, Jésus nous dit, acceptez de porter notre croix. Qu'est-ce que c'est que cette croix? Les gens de l'époque, qu'est-ce qu'ils comprenaient lorsque Jésus parlait de croix? Jésus n'était pas encore mort. La croix, c'était pas un bijou à mettre comme pendentif autour du cou ou de mettre sur le clocher d'une église. La croix, c'était le symbole de la souffrance, du rejet, une personne qui a été condamnée et qui est exposée là sur une croix. Et avant d'être sur la croix, elle devait la porter. Et on sait que Jésus devra faire ça. Donc, être rejeté par la société, souffrir, aller au devant de sa propre mort, que chacun prenne sa croix. Des fois, on a tendance à dire, ah, ma maladie, là, mes douleurs à la hanche, oh, c'est la croix que je dois porter. Ou bien mon voisin, ah, c'est ma croix. Non, pas ma voisine. Hein. Et c'est pas de ça que Jésus est en train de parler. Il est en train de parler de le suivre et d'accepter d'aller jusqu'au bout pour lui, de renoncer à soi-même, d'accepter d'être rejeté, d'accepter de ne pas avoir de valeur aux yeux du monde parce que on a une autre valeur, parce qu'on cherche autre chose. Et Jésus nous a donné un exemple, puisque lui-même, il a porté sa croix. Donc, c'est pas de la théorie hein, qu'il est en train de nous donner, mais c'est vraiment quelque chose de concret. Jésus a accepté d'être rejeté. Jésus a accepté l'injustice. Il a accepté l'humiliation. Toutes des choses que j'ai de la peine à accepter. Accepter d'être humilié, de subir des injustices, qu'il se charge de sa croix. Jésus va au devant de ses disciples. Il est devant nous. Il ne nous demande pas de faire quelque chose que lui-même ne fait pas. Il était pleinement homme. Et il a connu les mêmes tentations et il est allé jusqu'au bout. La troisième phrase, suivre Jésus. Qu'ils me suivent. Mais oui, moi je suis Jésus. J'ai pris ma décision, c'était dans un camp de vacances dans l'Oberland bernois. J'avais 11 ou 12 ans. Et puis depuis, ben voilà, j'ai choisi de suivre Jésus. Mais ce suivre Jésus, c'est pas une chose qu'on a fait dans le passé, une décision qu'on a prise une fois. C'est un présent continu dans le texte original. Donc c'est quelque chose qui continue. Je choisis toujours à nouveau. Je le suis. Je m'implique chaque jour. Chaque étape, chaque saison, on passe à travers différentes saisons de la vie, différentes étapes, des choses qu'on n'a pas choisies, on n'avait pas prévu certaines étapes, et puis tout à coup elles sont là. Et là, à nouveau, choisir de suivre Jésus. Pensez comme Jésus. Dans cette situation, Comment est-ce qu'il penserait Jésus? Aimer comme Jésus ou servir comme lui. La vie chrétienne, c'est pas seulement croire à certaines vérités, mais c'est vraiment, voilà, on a cette image des traces dans la neige, c'est suivre ses traces, aller où lui va. Et Jésus, il nous a laissé un exemple magnifique. Parce que lui, il suivait constamment son Père. Il y a un verset que j'ai déjà cité souvent, c'est Jean 5, verset 19. Le Fils ne peut rien faire de lui-même, il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Voilà l'attitude de Jésus. Il suivait le Père, il regardait le Père. Qu'est-ce que le Père fait? Je veux faire la même chose. Et encore dans Jean 6, il dit aussi, je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Jésus n'a pas vécu dans l'indépendance et sa vie, c'était une obéissance au Père. C'était rechercher et suivre la volonté de son Père. Il n'a jamais vécu comme un électron libre. Et ce qu'il nous demande de faire, c'est quelque chose qu'il a vécu lui-même. Suivez-moi. Voilà ces trois paroles. Renoncer à soi-même, porter sa croix, suivre Jésus. Et après, il y a un verset qui est vraiment un paradoxe. Comme il y en a plusieurs dans l'évangile de ces paradoxes. À première vue, Jésus semble se contredire. Celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Celui qui la perdra à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. Comment est-ce qu'on peut perdre sa vie et la sauver en même temps? Comment est-ce que la perte peut devenir un gain? En fait, Jésus, quand il parle de la vie, il parle pas seulement de la vie physique, mais il parle vraiment de notre existence, notre identité. C'est cette parole qui est utilisée dans l'original, qui peut être traduite par existence, par identité, ce que l'on veut faire dans sa vie. Sauver sa vie, ce n'est pas garder le contrôle, vivre pour soi-même, protéger ses intérêts, mais il nous montre autre chose. Et j'ai ici une illustration. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé de prendre du sable dans votre main et de serrer. Et plus on serre, plus le sable sort entre les doigts et puis tout à coup, il n'y a presque plus rien dans la main. Et c'est une belle image, celui qui veut garder sa vie. Mais en fait, finalement, il perd tout. Et Jésus lui-même, il a vécu aussi ces paradoxes. Un autre exemple, c'est celui de la semence. La semence, elle doit être mise en terre. En quelque sorte, elle doit mourir pour pouvoir porter du fruit. Et Jésus, il a quitté la gloire du ciel, il s'est abaissé. Il a accepté de devenir un serviteur. C'est Philippiens chapitre 2, hein, cette description de Jésus qui s'abaisse. Il accepte le rejet, il accepte la mort la plus terrible, celle de la croix. Vu de l'extérieur, tout semble vraiment un échec. Et pourtant, de la part de Dieu, c'était une victoire. Et il est mort, oui, mais il est ressuscité. Et là, il y a cette plante qui commence de pousser. La croix, eh bien, elle précède la couronne. Voilà le contraste. Si le grain de blé tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Et je crois que cette image nous aide à comprendre Marc 8. Celui qui renonce à sa vie, en fait, il la gagne. Celui qui la perd, il la reçoit. Cette image, un petit enfant debout sur un rocher qui saute dans le vide. Et le papa l'invite à sauter. Il dit, viens, je te tiens, je vais te prendre. Lâcher un rocher où on est sûr, hein, on est debout, pour se jeter dans les bras du Père. En fait, c'est ce que le Seigneur nous invite à faire. Nous abandonner vraiment. Il nous assure qu'il va nous rattraper. Et il le fait. Voilà ces paradoxes que Jésus lui-même a vécu et qu'on peut vivre nous-mêmes. Est-ce que vous avez des exemples dans votre vie où vous avez renoncé à quelque chose, vous avez abandonné quelque chose, et en fait, après, c'était un gain? J'ai posé cette question mercredi à un groupe de personnes. Et puis, là, il y a un homme qui m'a dit, ben, voilà, moi, j'ai vécu ça. J'ai prêté de l'argent à une personne. Et puis, cette personne ne m'a plus rendu cet argent. Je lui ai demandé, rien à faire, il me donnait pas cet argent. Et puis un jour, il y a un autre ami qui est venu vers moi, qui le connaissait, qui savait de cette dette, et puis il m'a demandé ce qu'il en était, mais il t'a payé celui-là? Puis j'ai pu lui dire non, mais pour moi, c'est oublié, c'est terminé, il doit plus me payer. Et là, il était libre. Et je me suis dit, ben voilà, il va s'arrêter ici. Et il a abandonné ça, puis intérieurement, il était libre. Mais il a continué son histoire. Et le copain qui m'a posé cette question, il allait le raconter à l'autre qui avait cette dette envers moi. Et tout de suite après, il m'a payé. Alors, c'est pas une méthode pour recevoir un paiement, hein. Mais c'est vrai que lorsqu'on lâche quelque chose, en fait, si c'est pour le Seigneur, on ne perd rien. Si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. En lisant seulement ça, on pourrait se dire, mais c'est dur d'être un disciple de Jésus. C'est lourd. En effet, celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. Donc finalement, on ne perd rien. Au contraire, on gagne quelque chose qu'on aurait perdu autrement. Qu'est-ce que ça veut dire dans mon quotidien? Cette phrase, on la connaît trop bien. Mais concrètement, dans l'étape où je suis maintenant, dans la saison de vie où je suis, qu'est-ce que le Seigneur, veut me dire avec ce verset? Il désire que nous soyons vraiment ses disciples, avec les yeux ouverts, attentifs. Comment tu fais? Dans ma situation, qu'est-ce que tu ferais à ma place? Jésus, tu ferais quoi ici? Nous voulons prier ensemble. Seigneur, merci parce que ce que tu nous demandes, en fait, c'est pour notre bien. C'est pour avoir vraiment la vie, la vraie vie. Tu nous promets une vie en abondance. Et Seigneur, merci parce que nous pouvons grandir dans cette confiance en toi, en sachant que, oui, tu ne te moques pas de nous, tu ne nous trompes pas. Et Seigneur, merci parce que ton esprit aussi nous parle intérieurement et tu nous fais comprendre où nous en sommes dans notre situation du moment. Et merci parce que tu es avec nous et tu ne nous abandonneras pas. Amen.